Il est 14h à Paris, 9h, à Port-au-Prince, une heure de plus à Rio. RFI Midi, la dernière demi-heure sur le continent américain avec d'abord cette question, quel avenir judiciaire pour Jair Bolsonaro ? La Cour suprême brésilienne doit se prononcer aujourd'hui sur un éventuel procès pour l'ancien président concernant un projet présumé de coup d'État. On partira aussi en Équateur, 7 ans, jour pour jour après l'enlèvement des journalistes d'El Comercio par des dissidents des FARC. C'était à Mataré et aujourd'hui la ville essaie de se défaire de cette histoire.
Notre communauté a été particulièrement oubliée. Avec toutes les fausses nouvelles que les médias ont publiées sur nous, les gens ne veulent même plus visiter la paroisse avec ce que nous avons vécu. Mais c'est arrivé dans tout le pays.
Un reportage à suivre et puis nous serons à Cap-Haïtien où les autorités entament un chantier pour tenter de faire face aux inondations et glissements de terrain meurtriers qui sont fréquents à chaque saison pluvieuse. Ensuite, ce sera à l'actualité des Outre-mer. Bonjour Alex Léveillé, on ira en Guadeloupe et en Martinique aujourd'hui.
Exactement, pour parler de l'affaire des airbags Takata défectueux et du fruit à pain.
A tout à l'heure, mais d'abord le journal international. Et on commence Karine Bellicha avec la réaction du Danemark. Le gouvernement se dit rassuré par le programme au Groenland du vice-président américain J.D. Vance.
Un soulagement après avoir dénoncé une pression inacceptable de la part de leur allié américain. Copenhague se satisfait de voir le vice-président des États-Unis se contenter d'une visite sur la base militaire de Pitufik, située dans le nord du territoire autonome. Daniel Valo, bonjour.
Bonjour.
Le risque d'une crise diplomatique s'éloigne donc entre Washington et Copenhague.
Oui, pourtant, il y a encore 12 heures, l'exaspération était à son comble au Danemark, mais aussi au Groenland. Tout a commencé par l'annonce ce dimanche d'une visite au Groenland de la femme du vice-président américain et de plusieurs officiel américain de haut rang, une visite non sollicitée par le gouvernement autonome groenlandais et qualifiée de pression insupportable par le Danemark. La tension diplomatique monte encore d'un cran ce mardi lorsque J.D. Vance annonce sur les réseaux sociaux qu'il va accompagner lui aussi son épouse.
Hey guys, it's J.D. Vance, the vice president, and you know there was so much excitement around Usha's.
Salut les gars, je suis J.D. Vance, le vice-président, et vous savez, il y a tellement d'excitation autour de la visite de ma femme au Groenland que j'ai décidé de la rejoindre. Beaucoup de pays menacent le territoire du Groenland et ses eaux territoriales, et ils le font pour menacer les États-Unis et bien sûr le peuple du Groenland. Alors je vais voir sur place comment est la situation.
Et le message aurait pu encore jeter de l'huile sur le feu, mais dans la foulée, une précision de taille est faite par la Maison-Blanche. Le vice-président et sa femme se contenteront de visiter un site militaire américain et tous les autres déplacements au sein de la société groenlandaise sont annulés. Un changement de programme perçu comme un rétropédalage est salué par le Danemark qui ne voit désormais aucune objection à cette visite impromptue puisqu'elle se déroule entre les murs d'une base américaine.
Daniel Valo du service international d'RFI. The Atlantic riposte après la prise de parole de Donald Trump. Le magazine publie aujourd'hui le plan d'attaque militaire américain, divulgué par erreur à son journaliste, les préparatifs de bombardement aérien contre les Houthis au Yémen. Le président américain avait tenté d'éteindre l'incendie en minimisant l'affaire, un simple pépin sans gravité.
La direction Haïti à présent, où un policier kényan est décédé.
C'est le deuxième en l'espace de 2 mois. Bonjour Vincent Sorio.
Bonjour.
Membre de la force internationale déployée dans le pays pour lutter contre les gangs, il est tombé dans une embuscade tendue par des groupes armés dans le centre du pays.
Oui, et les gangs s'en réjouissent. On aperçoit ce qui est présenté comme le cadavre de ce policier kényan dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, mise en scène répugnante de sa dépouille giflée à plusieurs reprises par un homme assurant que cet officier a pris une balle à la gorge. Sa mort s'est produite hier dans la zone de Ponsondé, un secteur du centre d'Haïti infesté depuis des mois par les groupes armés. Tout est parti d'une patrouille de la police nationale haïtienne dont le véhicule s'est enlisé dans un fossé, sans doute creusé par les gangs. L'attaque s'est ensuite produite lorsque la force multinationale dirigée par le Kenya a été appelée en renfort pour remorquer cet engin. Officiellement, cet officier kényan reste porté disparu et des secours sont partis à sa recherche. Mais vu les images qui circulent sur Internet, il fait très peu de doute qu'il ne reviendra pas. Les forces de sécurité en Haïti ont aussi perdu 3 véhicules véhicules blindés qui ont été incendiés pendant cet assaut.
Vincent Sorio du service international d'RFI.
En Moyen-Orient, Damas s'est engagé à faire la lumière sur les massacres d'Alaouites.
La minorité du dictateur déchu, selon l'ONG OSDH, plus de 1600 civils syriens ont été tués au début du mois dans la région côtière. La commission d'enquête a tenu sa première conférence de presse hier. À Damas, le récit de notre correspondante Manon Chaplin.
C'est dans la province de Latakié, largement touchée par les massacres, que la commission a débuté son travail le 14 mars. Plus de 95 témoignages, 30 signalements oraux ou écrits, 93 éléments de preuves numériques ont pour l'heure été étudiés. Jusqu'ici, des membres des forces de sécurité, des groupes radicaux et djihadistes étrangers ont été pointés du doigt. Mais il est trop tôt pour annoncer la moindre conclusion, a annoncé hier le porte-parole de la commission d'enquête, Yasser El Farain. Sur le terrain, les membres de la commission se sont entretenus avec des responsables de la sécurité, des centaines de familles, des médecins légistes, mais le travail reste colossal, explique le porte-parole. Une enquête est également menée pour identifier les groupes armés pro-Assad, accusés d'avoir tué de nombreux membres de la sécurité générale début mars.
Nous avons remarqué sur le terrain que la région n'était pas encore sécurisée. Nous avons tout de même visité les villages, fait notre travail, mais nos équipes de sécurité ont dû être très prudentes et se déplacer rapidement, car il y a encore des vestiges de l'ancien régime. Lors d'une visite, nous avons trouvé des loyalistes réfugiés dans les montagnes et dans les forêts.
Autre point abordé, l'adoption d'une loi sur la justice transitionnelle en Syrie, largement demandée d'une part par les victimes des crimes de l'ancien régime, mais aussi par les familles alaouites victimes de ces exactions.
Il est probable qu'un tribunal national spécial soit prochainement créé pour poursuivre les personnes impliquées dans ces crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en Syrie.
Face à ces exactions, des centaines de familles alaouites, mais également des forces de l'ancien régime sont toujours réfugiées dans la base militaire russe d'Amimim. À Damas, Manon Chaplin, RFI.
Et dans le sud de la Syrie, les bombardements israéliens se poursuivent. Damas condamne une violation flagrante de sa souveraineté. Depuis la chute de la dictature Assad, Israël mène des centaines de frappes sur des sites militaires de l'ancien pouvoir pour empêcher que cet arsenal ne tombe entre les mains des nouvelles autorités qualifiées de djihadistes. Jordan Bardella a entamé une visite sans précédent en Israël, point d'orgue de la stratégie de dédiabolisation de son parti, le parti français d'extrême droite. À l'invitation du gouvernement israélien, le président du Rassemblement national va participer demain à une conférence contre l'antisémitisme.
Et puis l'entreprise Coca-Cola qui est une nouvelle fois épinglée en matière d'environnement.
Un rapport d'Oceana, la plus grande organisation internationale de défense des océans, elle publie un nouveau rapport très inquiétant. The Coca-Cola Company devrait utiliser plus de 4 millions de tonnes de plastique par an d'ici à 2030 si l'entreprise ne change pas de cap, soit une hausse de 20% par rapport à la consommation de l'entreprise en 2023. Igor Strauss.
Selon les estimations reprises dans ce rapport, chaque année d'ici à 2030, plus de 600 000 tonnes d'emballages plastiques utilisés par Coca-Cola se retrouveront dans les cours d'eau et les océans si l'entreprise ne change pas de modèle. Une quantité de plastique suffisante pour remplir les estomacs de plus de 18 millions de baleines bleues. Des chiffres vertigineux mais sans surprise. D'après une étude publiée dans la revue Science, Coca-Cola est la plus grande source de plastique retrouvée dans l'environnement. Pourtant, des solutions existent. Selon Oceana, si Coca-Cola utilisait 26% d'emballages réutilisables d'ici 2030, contre seulement 10% en 2023, la multinationale pourrait infléchir sa courbe d'utilisation du plastique. Une bouteille en verre, par exemple, peut être réutilisée 50 fois et donc éviter la production de 49 bouteilles en plastique. Mais The Coca-Cola Company a fait un autre choix en investissant près d'un milliard de dollars pour acheter du plastique recyclé en 2022. Un contresens pour Oceana qui rappelle qu'une bouteille en plastique, même recyclée, alimente la pollution marine et affecte durablement la santé humaine en se décomposant.
Igor Strauss du service environnement d'RFI.
Et c'était le journal de Karine Bellicha.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Il risque 40 ans de prison en cas de procès. Au Brésil, Jair Bolsonaro devrait savoir aujourd'hui s'il va faire face ou non à la justice. L'ancien président pourrait être jugé pour un projet présumé de coup d'État. En direct sur plusieurs chaînes d'information, la Cour suprême délibère depuis hier pour décider de l'ouverture ou non de ce procès en présence de Jair Bolsonaro, qui a assisté hier à la première journée d'audience. Correspondance depuis Rio de Janeiro de Sara Cozzolino.
Jair Bolsonaro au premier rang face aux magistrats. À la surprise générale, le principal concerné s'est retrouvé mardi matin en face à face avec son ennemi juré, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes. Certains ont analysé sa présence comme une manière d'exercer une pression politique car il n'a pas le droit d'intervenir. Quelques minutes avant l'ouverture de la session, l'ancien président n'a pas résisté à une énième provocation contre le juge. L'arbitre a sifflé avant même que le match ne commence, a-t-il ironisé sur le réseau social X, car sa défense n'a pas changé depuis les premières accusations. L'ancien président se dit victime d'acharnement, de persécution politique même. Ses avocats balaient d'un revers de main le rapport de 900 pages de la police fédérale, l'accusant d'avoir tenté coûte que coûte de se maintenir au pouvoir après les élections de 2022. Si un procès s'ouvre à l'issue du vote des 5 juges appelés à trancher ce mercredi, l'ancien président ainsi que 7 de ses alliés devront répondre de plusieurs crimes. Les peines encourues dépassent les 40 ans de prison. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
La presse brésilienne parle d'une stratégie bien huilée du côté de la défense de Jair Bolsonaro.
Oui, la présence de l'ancien président brésilien devant la cour a surpris tout le monde hier pour O Globo. Le fait de mettre Bolsonaro face à ses juges vise à démontrer publiquement que ce dernier ne craint rien et surtout ne doit rien à personne. Mais personne n'est dupe et les accusations de complot ne semblent pas diviser l'opinion au sein du premier panel de juges. En coulisses, ajoute le journal, ces derniers reconnaissent que les faits révélés par l'enquête sont graves et doivent être jugés pour stopper définitivement, je cite, les impulsions antidémocratiques.
Jair Bolsonaro qui n'est en revanche pas présent aujourd'hui pour assister en personne aux délibérations de la Cour suprême.
RFI, la radio del mundo.
En Argentine, un autre procès retient l'attention, celui sur les circonstances de la mort du footballeur de légende Diego Maradona.
Oui, et la presse argentine revient sur l'arrestation hier en pleine audience du garde du corps de ce dernier pour faux témoignage. Il était le troisième témoin du cinquième jour de ce procès qui se tient dans la banlieue de Buenos Aires. Julio Correa était présent le jour où Diego Maradona est décédé. Il lui a fait du bouche à bouche jusqu'à l'arrivée des médecins. Le quotidien Clarín raconte qu'il s'est contredit lors de ses déclarations et qu'il a omis certains détails concernant notamment la façon dont Maradona a été réanimé. Il a aussi oublié de mentionner une conversation entre la fille de l'ancienne star du football et son neurochirurgien. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison pour parjure.
Et puis c'était il y a 7 ans, jour pour jour en Équateur, le 26 mars 2018. Les 3 membres d'une équipe journalistique du quotidien El Comercio étaient enlevés dans le petit village de Mataré, à la frontière avec la Colombie. Ils seront assassinés 2 semaines plus tard par les dissidents des FARC, membres du Front Oliver Sinisterra. Depuis, Mataré a été militarisé et souffre d'une réputation négative que les autorités et les habitants essaient de changer. Reportage du correspondant de RFI en Équateur, Eric Sanson.
Une fois passée la base militaire installée à l'entrée du village, Mataré ressemble à bien des petites localités de la frontière. La rivière du même nom fait office de frontière très perméable. La maison jaune de 2 étages, aujourd'hui désertée, de la mère du leader du Front Oliver Sinisterra, rappelle un passé dont les conséquences se font encore sentir, comme le regrette Maria Daniela Midero, qui vit à Mataré.
Notre communauté a été particulièrement oubliée. Avec toutes les fausses nouvelles que les médias ont publiées sur nous, les gens ne veulent même plus visiter la paroisse avec ce que nous avons vécu. Mais c'est arrivé dans tout le pays.
Pour changer les choses, les habitants ne veulent plus fuir le village comme il y a 8 ans. Mais pour cela, il faut que l'éducation de leurs enfants s'améliore.
Ici, dans la communauté, on a besoin de beaucoup de choses. Pour étudier, de nombreux enfants doivent se déplacer à San Lorenzo et les parents ne gagnent pas assez pour payer le bus.
Une réalité que regrette Pablo Iturralde, directeur de l'ONG Terre pour tous, qui se bat pour l'éducation en zone frontière.
L'école ici ne va que jusqu'à la 3e, Mataré, et pourtant une paroisse depuis plus de 50 ans. Il n'y a pas de bac ici et un jeune de 13 ou 14 ans n'a pas d'avenir. Il récoltera de la coca.
Et ce, d'autant plus que le développement économique a longtemps évité Mataré, selon Cecilia Quiñones, qui vit dans le village.
Il nous faut du travail. Il y a quelques rares emplois dans les plantations de palmiers à huile ou dans la construction, mais c'est tout. Les jeunes partent du village vers les grandes villes et c'est ce que nous ne voulons pas. Certains vont dans les Andes, d'autres à Esmeraldas pour changer de vie. Mais faute d'opportunités de travail, la plupart va en Colombie pour récolter la coca et deviennent des expatriés, des raspachines, comme on dit ici.
La coca est facile à voir. C'est la culture dominante côté colombien tout au long de la frontière. Pablo Iturralde.
Cela peut en surprendre beaucoup, mais cultiver l'arbuste de la coca est normal ici. Du côté colombien, toute la zone frontalière est pleine de plantations de coca. Tu travailles de 10 à 15 jours par mois pour gagner de 4 à 600 dollars. Assez pour faire vivre une famille de 5 personnes.
Pour donner aux jeunes du village, comme Jonathan Seguro, une chance d'éviter de tomber dans l'illégalité, encore faudrait-il que sa mauvaise réputation change.
Ce n'est pas un village de terreur comme les gens de l'extérieur peuvent le croire. Ici, nous sommes des entrepreneurs et nous sommes prêts à développer notre village.
Il y a plusieurs années, un pont a été construit sur la rivière Mataré, un pont qui donnait sur une colline couverte de coca faute de route construite en Colombie. La route, aujourd'hui, existe. Les autorités colombiennes y ont construit un poste frontière, mais pas l'équateur, regrette Wilmer Jumbo, président de la junte parochiale de Mataré.
Le pont est fermé et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'a pas construit et ouvert le poste frontière. Cela donnerait du travail, aiderait le commerce et le tourisme, tout ce dont Mataré a besoin.
L'idée des autorités et de la population est d'organiser une foire commerciale qui permettrait de réactiver l'activité économique et de donner une autre image à Mataré, selon le villageois Luis Julio Rosero.
Nous avons besoin de l'ouverture du pont binational et que l'État construise le poste frontière. Nous avons besoin d'organiser une foire commerciale pour nos agriculteurs et surtout, il faut changer l'image de Mataré à l'extérieur, que les gens voient que c'est un village normal.
Un souhait partagé par Wilmer Jimbo, président de la junte parochiale, qui attend le retour de l'État et des visiteurs.
Mataré n'est pas ce que les gens croient. Quand je voyage à Quito ou à Ibarra et que je parle de Mataré, les gens font de grands gestes et des grands soupirs. Non, venez découvrir Mataré. Oubliez vos préjugés. Ne pensez pas que le village est violent avec un cortège de morts et d'enlèvements. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas entendu le coup de feu ici.
Eric Sanson, Mataré, LFI.
9h17 à Washington. L'actualité aux États-Unis, Anne, c'est ce décret signé par Donald Trump qui va obliger les futurs électeurs à prouver leur citoyenneté.
Oui, et cette fixation du président américain sur le processus électoral ne date pas d'hier, souligne le Washington Post. Il avait dénoncé les résultats des deux précédentes élections en remettant en cause des votes d'électeurs qui, selon lui, n'avaient pas la citoyenneté américaine. Mais rien n'a été prouvé. Seules les personnes qui ont la citoyenneté peuvent voter aux États-Unis lors des élections fédérales. Mais la plupart des États américains ne demandent pas de preuve de cette citoyenneté, poursuit le journal. Seulement une déclaration sur l'honneur. Avec ce décret, des millions d'Américains pourraient être empêchés de se rendre aux urnes. Un décret qui est de plus inconstitutionnel, selon un expert juridique cité par le Washington Post.
Les États-Unis qui ont définitivement mis fin hier au programme Parole pour les migrants venant d'Haïti, du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua.
Oui, la Prensa, le journal nicaraguayen, revient sur cette décision qui pourrait toucher 530 000 migrants aux États-Unis. Une plainte a été déposée au tribunal fédéral de Boston et il y a toujours l'espoir que le juge ordonne un gel temporaire de cette mesure qui prendra effet le 24 avril. Certains plaignants nicaraguayens sont entrés dans le pays après la torture d'un membre de leur famille et la persécution politique qui s'en est suivie, raconte le journal. L'un d'entre eux a subi des menaces de mort. Selon le décret de Trump, il pourrait n'avoir plus que 30 jours pour retourner dans son pays.
La revue de presse d'Anne Verdaguer.
RFI à Cap-Haïtien, 100.5 FM.
En Haïti, un policier kényan est porté disparu, sans doute décédé, on en parlait dans le journal, après une embuscade tendue par des gangs, un policier de la force internationale déployé sur place justement pour lutter contre la violence. Toujours en Haïti, la deuxième ville du pays veut-elle lutter contre les inondations à chaque saison pluvieuse? Les quelques 300 000 habitants de Cap-Haïtien sont en danger. La ville côtière est vulnérable, notamment parce qu'elle est entourée de rivières et traversée par environ 5 bassins versants qui ne sont pas traités. Conséquence, lorsqu'il pleut, l'eau dégouline des montagnes et provoque des glissements de terrain mortels. Les autorités ont donc décidé de lancer un chantier pour tenter de limiter ces inondations. Reportage de Ronel Paul et Love Markendil Paul.
Ce mardi après-midi, les ouvriers de la municipalité sont à pied d'œuvre à Charrier, un quartier populaire à l'entrée sud-est de Cap-Haïtien. Une trentaine de maisons viennent d'être détruites partiellement par les pilleuses, sous le regard confiant de Patrick Almonor, le maire de la ville, pour qui il vaut mieux prévenir que guérir.
Cette zone est une zone inondable qui ne devrait pas être habitée. Nous, nous prenons toutes les dispositions pour éviter que la population soit victime dans n'importe quelle condition. Le rôle de l'État, c'est de prévenir. Avant, l'État était absent, mais aujourd'hui, on essaie d'être présent pour faire un maximum d'efforts. On est dans une ville qui s'est développée pendant 35 ans de manière anarchique, de manière sauvage. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aurait dû être fait il y a très longtemps. La gestion a été mal faite, alors aujourd'hui, on essaie d'apporter les corrections. C'est pourquoi on demande la collaboration de tous les citoyens et les citoyennes qui habitent et qui aiment Cap-Haïtien.
La population est prête à collaborer avec les autorités, mais les habitants auraient bien voulu être informés plusieurs mois à l'avance de cette intervention. À l'image de Jean-Paul qui est sidéré, une bonne partie de son hôtel a été rasée. Le septuagénaire dénonce le manque de consultation et de communication de la part des autorités. Personne ne lui avait dit que son hôtel était trop près du canal d'évacuation des eaux de pluie des montagnes à proximité.
Vous savez, il y a des endroits qui devraient être démolis. Ils ont tracé ici, mais ils démolissent jusque-là. C'est juste pour nous faire dépenser de l'argent. Moi, je paye toutes mes taxes. Personne ne m'avait jamais signalé ce problème. Ça, c'est un travail communal. Si on l'avait fait en collaboration avec la population, il serait mieux fait. Le pays n'a même pas d'argent. La partie qu'ils ont démolie va me coûter plusieurs milliers de dollars.
Centaines de milliers de dollars, oui.
À quelques encablures de là, Kendra Aubin observe les ruines. La clôture de la maison de sa tante n'existe plus. Pourtant, elle n'a aucune colère contre la municipalité, mais elle est inquiète. Depuis plus d'une semaine, les travaux sont arrêtés et tous les gravats sont restés sur la chaussée. À moindre averse, c'est la catastrophe.
Nous sommes très inquiets car s'il pleut, tous ces déchets rentreront dans nos maisons. J'espère qu'ils vont se dépêcher d'enlever tout ça. Mais sinon, on n'a aucun problème avec ce travail parce que l'eau nous dérange beaucoup. Quand il pleut, la ruelle est inaccessible. Si c'est dans notre intérêt, il faut qu'on accepte des pertes pour pouvoir trouver une solution. Parce que si le canal n'est pas élargi, on sera tous inondés. Parce que quand il pleut, la ruelle est souvent impraticable.
Comme Kendra, Lovensky Fizeme, géographe aménageur, apprécie la volonté de la mairie d'améliorer la résilience du chef-lieu du département du Nord. Cette ville de 300 000 habitants, bordée de mornes et de collines, est régulièrement victime de glissements de terrain, d'inondations et de tremblements de terre. Pour se protéger contre ces catastrophes, un plan d'urbanisation doit être mis en place et appliqué à la lettre, souligne Lovensky Fizeme.
La première chose à faire, c'est que l'État doit développer ce qu'on appelle PLI, un plan de local d'urbanisation clair, parce que normalement la ville n'est pas statique, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle va continuer à évoluer. On doit en penser de l'évolution de la ville. Mais maintenant, pour penser de l'évolution de la ville, pour résoudre le problème, ce qui a trait à la question de l'inondation de la ville, on doit travailler ce qu'on appelle la réhabilitation. Réhabilitation et entretien des canaux de drainage, nettoyer et élargir régulièrement les canaux pour éviter l'obstruction par les déchets et sédiments, création de bassins restants de rétention, ce qu'on appelle, on peut développer d'autres espaces pour conserver les eaux et également les espaces, les bassins versants qui sont habités par des gens, on doit les déplacer.
De son côté, le maire de la ville se défend. Tous ces éléments sont déjà inscrits dans le plan de développement de la commune et seront bientôt exécutés. Mais selon Patrick Almonor, tout le monde sait qu'il ne faut pas construire dans les bassins versants et à moins de 5 mètres des ravins. Résultat, personne ne sera indemnisé. Ronel Paul, Love Mark Andy Paul, RFI.
Allez, il est 13h23 en temps universel, 9h23 à Fort-de-France.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec vous, Alex Léveillé. La justice avance donc dans l'affaire des airbags Takata défectueux.
Et oui, les procédures ouvertes dans cette affaire sont regroupées au parquet de Paris. Cette décision était attendue par les avocats des victimes. Éric Lefebvre de Guadeloupe, la première.
C'est une première victoire pour les avocats des victimes des airbags Takata et une nouvelle étape dans le parcours du combattant judiciaire qui les attend. Le parquet de Paris va centraliser les procédures ouvertes dans l'Hexagone concernant les accidents liés à ces airbags défectueux. Ce regroupement dans un seul parquet était souhaité par souci d'efficacité. Mais c'est surtout outre-mer que des procédures ont été lancées. Tous les dossiers de Guadeloupe ont été centralisés, eux, au parquet de Pointe-à-Pitre et ils sont désormais traités par une seule juge d'instruction. Le scandale des airbags du fabricant japonais, aujourd'hui liquidé, secoue le secteur de l'automobile depuis 2014. À cause d'un gaz qui vieillit mal, il risque d'exploser en projetant des pièces sur les conducteurs. En France, 29 accidents liés à ces airbags ont été recensés, provoquant 11 décès en Outre-mer et 1 en métropole, selon le ministère des Transports. Aux États-Unis, 28 décès et au moins 400 blessés ont été recensés il y a une dizaine d'années. Les procédures d'indemnisation sont pour la plupart toujours en cours. Ici, des plaintes ont été déposées contre Stellantis, le groupe de la marque Citroën, équipé par Takata. Plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.
Éric Lefebvre de Guadeloupe, la première. La Martinique, elle, envisage de développer une filière agricole pour le fruit à pain. Il se consomme cuit, au four, frit, en purée, comme la pomme de terre. Allez, le reportage de Pierre-Yves Honoré de Martinique, la première.
J'ai présenté un petit gâteau roulé à base de fruits à pain banane, les muffins, les cookies et les conserves.
Ces nouveaux produits à base de fruits à pain en cours d'élaboration pourraient rejoindre sur les étals farine et chips de fruits à pain déjà bien connus. Depuis 2024, les équipes de recherche et développement du PARM explorent toute une panoplie de produits à partir de fruits à pain. Séverine Lebeau, la responsable du pôle recherche et développement du PARM.
Vision 360 du fruit à pain, on va partir sur des plats cuisinés, des produits apéritifs, sur des boissons à base de fruits à pain, des pâtisseries à base de fruits à pain. C'est vraiment se dire explorer dans toutes ses formes en fait, le fruit à pain.
Pour que ces nouvelles recettes voient le jour, le PARM s'est donné mission de structurer avec ses 12 partenaires une filière autour du fruit à pain. C'est le réseau BioAir. Katia Rochefort, la directrice du PARM.
Dans ce projet, on a effectivement des acteurs de la recherche, des acteurs du développement, des acteurs économiques qui vont en fait s'approprier effectivement les connaissances qui seront acquises au travers des études de recherche-développement qui seront menées pour faire en sorte que la dynamique d'innovation dans ce secteur soit plus intense.
L'objectif, c'est que toutes les connaissances acquises soient rapidement transférées à des acteurs économiques pour une mise sur le marché. Katia Rochefort.
Et donc cet appel à manifestation d'intérêt va permettre à une entreprise de se positionner pour pouvoir s'approprier les connaissances pour développer telle ou telle production élaborée avec notre fruit à pain.
Ces nouveaux produits à base de fruits à pain et leur process de fabrication seront fin prêts d'ici juillet 2027 selon le PARM. La course contre la montre est d'ores et déjà lancée.
Pierre-Yves Honoré de Martinique, la première. C'est la fin de cette édition. Merci à André Sinaritier et Denis Degout pour la réalisation. Excellente fin de journée à tous.
Et merci beaucoup Alexis, Alex Léveillé pour ce journal. Allez, il est presque 13h30 en temps universel. On arrive à la fin de ce RFI Midi, mais d'abord quand même, on se quitte avec un petit peu de musique. Bad Bunny, Noué Bayol sur RFI.
¿Quieres divertir?
Le rappeur portoricain Bad Bunny pour terminer ce RFI midi. Merci à Lorraine Nemoza qui était à la réalisation aujourd'hui, Emmanuel Klotz à la rédaction en chef. Restez avec nous sur RFI dans un instant. C'est De Vive Voix avec Pascal Paradou. Et moi, je vous dis à demain. Bonne journée.
Du 21 au 30 mars, le festival Ciné Latino Rencontre de Toulouse ouvre les portes cinématographiques de l'Amérique latine en 140 films et un large panorama de la production récente. Au programme, compétitions, découvertes, focus, documentaires, sélection spéciale pour le jeune public et une thématique mise à l'honneur, les voix et regards des cinéastes autochtones. Le festival Ciné Latino du 21 au 30 mars. Plus d'informations sur cinelatino.fr en partenariat avec RFI.